l'ombre de Concertina. L'émission en direct et en public d'ici l'ombre, depuis la Halle à Durfy. Samedi 10 juillet à 19h.
Vous écoutez Ici l'ombre, la radio de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Bienvenue dans À l'ombre de Concertina. Une émission en direct et en public depuis la Halle, où nous recevons chaque jour, ce soir, demain soir à la même heure, 19h, et dimanche à 14h, nous recevons donc les invités des rencontres. Alors, ce soir, il y a plein de monde avec nous. Sylvie, dis-nous un peu tout le monde qu'il y a.
Alors, au sommaire, effectivement, de cette émission, et bien de ce premier rendez-vous, finalement, de ce premier plateau direct, on a voulu que ce soit un peu le reflet du premier jour, puisque une première journée dense en proposition. On va commencer par aller se balader du côté de Beauvallon, puisqu'une école ou un institut, c'est une part d'histoire. On va découvrir tout ça avec, entre autres, Marc Jouze. L'histoire du barbelé en mots et en images. Ce sera une rencontre croisée avec Olivier Razac et Sophie Bruno. Et on terminera par la découverte d'une des propositions des rencontres, les parloirs libres, avec Christine Perregaux et Marielle Rispaille. Alors, l'école de Beauvallon fait partie des lieux emblématiques de Dieulfy et c'est aujourd'hui un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Mais en poussant la porte de cette maison, on découvre un présent chargé de l'histoire de l'éducation nouvelle autant que de la tradition d'accueil de Dieulfy. On accueille donc Marc Jouze, reporter pour Ici l'ombre, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Marc.
Bonsoir.
Marc qui a réalisé un reportage Beauvallon, l'école sans nom.
Sans mur.
Sans mur, pardon. C'est moi qui ai mal écrit. L'école sans mur qu'on a pu entendre tout à l'heure et dont on parlera plus longuement après avoir baladé justement dans Beauvallon, puisque ce matin, il y avait une déambulation et que Chloé de Radiola est allée porter son micro. Déambulation proposée par Bernard Delpa, l'historien, auteur de « Adieulfy, nul n'est étranger » et l'album de Beauvallon. On écoute tout de suite la balade proposée par Chloé. Ouais.
Alors, bienvenue à l'école de Beauvallon.
J'ai pêché la
et qui a ouvert à la rentrée 1930. Elle a été fondée en 1929, mais dans les bâtiments du bas, qui s'appelle la Sablière, que vous avez vu en entrant, pour deux classes. Et à partir de septembre 29, un énorme chantier auquel participaient les enfants s'est ouvert. Et en 1930, la maison qu'on va voir, qui s'appelle la Grande Maison, a ouvert ses portes et l'école s'est installée là. Elle fonctionne sans discontinuité, sauf 6 mois. Fin 45, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous ne verrez pas d'élèves, vous ne verrez pas d'enseignants, vous ne verrez personne de la maison, puisque depuis le 7 juillet, ils sont en vacances. Et traditionnellement, la direction de l'école loue les bâtiments à des organisations de jeunesse. Vous voyez, on vient passer le BAFA. Enfin, c'est-à-dire que l'été, il y a des activités de caractère pédagogique centrées sur l'enfance, mais c'est pas le fonctionnement de l'école. Elle va reprendre évidemment à la rentrée scolaire. Quand on est passé à Beauvallon, on est beauvallonnais et beauvallonnaise et on l'est pour toute sa vie. C'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai étudié ce lieu, ce milieu. Que ça soit en 1950 ou aujourd'hui, ces 2, 3 ou 4 années passées ici marquent d'une manière indélébile. Et on se reconnaît entre Beauvallonnais, on a un vocabulaire, on a des souvenirs, et souvent des décisions dans la vie qui sont prises au nom des valeurs acquises ici. Alors les deux fondatrices en silhouette sont Marguerite Soubéran, qui possédait une partie de cette propriété de par sa famille, et qui l'a étendue grâce au don de sa famille. Son projet... Il est façonné dans sa tête dans les années 1925. Son projet a été soutenu par son milieu familial. Et ses frères, ils étaient 11 enfants, lui ont donné de quoi bâtir cette grande propriété d'une soixantaine d'hectares et aussi de quoi bâtir ce bâtiment. Et à côté d'elle se trouve celle qu'on appelle Atti, qui est une jeune fille qu'elle a rencontrée à Genève au cours de ses études. à l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Elle y est partie en 1928, elle est revenue en 1929 avec le diplôme de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Cet institut qui, 10 ans plus tard, rentre dans l'Université de Genève, est pour le moment un centre expérimental de formation des maîtres pour bâtir des écoles nouvelles. En gros, la base de leurs études sont des disciplines entièrement neuves, pédagogie, sociologie, psychopédagogie, et puis utiliser des disciplines, entre guillemets, des matières qui sont peu pratiquées dans l'enseignement officiel de l'Europe. Deuxième élément, l'enfant est au centre de toutes les réflexions et de toutes les pratiques. Hein, on aimait bien dire à l'Institut Jean-Jacques Rousseau que, évidemment, il fallait commencer par lire l'Émile de Rousseau. Et la devise de l'Institut, c'est « tu dois tout apprendre de l'enfant ».
Alors, cette déambulation accompagnée par Bernard Delpal ouvrait le premier jour des premières éditions de Concertina, donc les journées de rencontre sur les enfermements. Et donc, cette première déambulation, c'était autour de cette école de Beauvallon, prônant un système d'éducation novateur lors de la conception et la construction de cette structure, mais qui reste encore novateur aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien non plus que cette structure a vu le jour à Diolfi, terre de résistance, qui a accueilli autant de grandes figures de l'intelligentsia française pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi tous les anonymes qui avaient besoin d'être protégés. Voilà. Alors, on a avec nous Marc Jius. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et tu as fait aussi un documentaire. Tu es allé à la rencontre des personnes qui fréquentaient Beauvallon, des jeunes qui étaient reçus à Beauvallon. Et ces jeunes-là, tu as fait tout un documentaire sur eux qui sera disponible dans le podcast sur le site de Concertina, dans l'onglet « Ici l'ombre ». C'est bien fait quand même. Hein. ce documentaire, tu as choisi un extrait à nous faire écouter sur une histoire de couteau. Est-ce que tu veux le présenter avant ou après qu'on ait écouté l'extrait? Qu'est-ce que tu préfères?
Bon, je peux dire un mot de ma démarche, c'est-à-dire que ce que vient d'exprimer Bernard Delpal sur les valeurs essentielles qui étaient à la création de Beauvallon, qui sont encore aujourd'hui, qui servent un peu de cap à l'équipe dirigeante et aux encadrants, c'est effectivement placer l'enfant au centre, c'est l'école qui doit s'adapter à l'enfant et plus l'inverse, comme dans les écoles traditionnelles. Et puis le deuxième objectif, c'est de former des individus critiques capables de penser par eux-mêmes. Et Delpal, il explique très bien que l'école nouvelle, c'est un mouvement de réaction à l'école traditionnelle qui a quand même fait le lit des nationalismes en Europe et former des enfants qui, une fois jeunes, sont allés se faire trouer la peau par millions dans les tranchées. Donc c'est vraiment un mouvement de réaction avec cette idée de faire des citoyens capables de se conduire eux-mêmes. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai aussi été attiré par cette contradiction que Beauvallon, dès sa création, c'est une école totalement ouverte. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de mur, alors qu'on accueille ici des enfants réputés difficiles, qu'on avait plutôt tendance dans les années 30 et bien plus tard à mettre sous clé, plutôt qu'à leur dire « allez-y, ébattez-vous librement dans la nature et entre les bâtiments où vous étudiez ». Donc voilà, c'est cette contradiction que j'ai essayé de travailler avec eux, en leur donnant la parole, pour leur demander comment ils vivaient l'absence de limites, mais aussi les règles, parce qu'il y en a, les contraintes, les sanctions. Bref, ils ont commencé un peu à philosopher sur la notion de liberté.
Alors justement, l'extrait que tu as choisi, c'est sur une de ces règles.
C'est une de ces règles, oui, tu as raison. Une institution qui s'appelle le permis de couteau. Et c'est Bernard Delpal qui va d'abord, dans l'extrait de reportage, raconter l'histoire. Puis ensuite, on ira voir un enfant qui a à voir avec ce permis de couteau. Et Bernard, il a entendu pour la première fois cette histoire à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, à Genève, qui est le berceau de l'école nouvelle. Mais à Beauvallon, le permis de couteau, c'est une réalité. On écoute ?
On écoute.
Quand j'ai commencé à fréquenter l'école Jean-Jacques Rousseau d'aujourd'hui, la contemporaine,
j'ai été frappé par un récit qui m'a été fait sur cette aptitude de l'école et de l'enfant à s'auto-former, à repérer les moments où, malheureusement, on a commis une faute et où il faut réparer. Ce qu'on m'a raconté, c'est l'histoire du permis de couteau. Ça a été introduit dans les années 1990, donc fin du XXe siècle, et c'est toujours en usage aujourd'hui. Beaucoup des enfants qui, aujourd'hui, arrivent à l'école, en ce sens, ils sont un petit peu différents des enfants qui arrivent à l'école dans les années 30-40, mais beaucoup d'enfants qui arrivent aujourd'hui à l'école sont des enfants qui sont en rupture avec les institutions. La punition, l'école, les punitions de samedi, etc., ils connaissent, hein, ils ont beaucoup fréquenté ça, pas donné grand-chose. Et ces enfants ont malheureusement, parce qu'ils sont en rupture avec les institutions, et c'est des ruptures en cascade, deviennent, et ce n'est pas une grande surprise pour nous adultes, deviennent des enfants violents. Et la violence s'exprime par l'usage du couteau. Beaucoup de ces enfants viennent de régions suburbaines un petit peu difficiles, autour de Valence, le quartier de l'Europe par exemple. Bon, ben, le couteau est en usage parce qu'il est au cœur des rapports sociaux de violence. Quand ils arrivent à l'école, ils ont un couteau. Or l'école ne dit pas « on te confisque ton couteau ». On dit « voilà, ici, les enfants qui ont un couteau, qu'ils ont obtenu un permis de couteau ». C'est un petit peu comme le permis de conduire, avec un permis à point en quelque sorte. C'est que si ce couteau sert à un mauvais usage, tu perds des points. Et puis si un jour tu vas trop loin, tu perds ton permis de couteau. Alors à ce moment-là, le couteau, tu le remets à celui ou celle qui est chargée de la surveillance, de la conservation, et puis tu vas pouvoir regagner tes points et retrouver ton couteau. Autrement dit, le couteau, ce n'est pas l'abomination de la désolation, c'est simplement un moyen de construction de l'enfant par rapport à la société qui l'entoure. Il peut déchirer son contrat, mais il peut aussi réparer son contrat. Le couteau devient un instrument d'éducation. Ce n'est pas du tout un instrument de peur, de violence. Au contraire, on aboutit à un contrôle de soi. Et quand l'enfant retrouve son couteau, il y a une sorte, pas de fête, mais c'est dit, Jean-Marc, on lui a rendu, il a retrouvé son permis de couteau. Ah, ben ça, c'est bien. Il a marqué des points. Voilà, c'est un motif de satisfaction. Voilà comment les murs sont inutiles, dans la mesure où tout se joue dans l'entre-soi, dans le fonctionnement à l'intérieur de la communauté, qui est une communauté vivante, et pas une communauté qui punit, qui exile, non, une communauté qui aide à la réparation.
C'est vraiment galère, ce truc, là. Heureusement qu'on a les aides Google.
Toi, c'est quoi les matières que tu apprécies le plus, que tu aimes le plus ?
C'est les mathématiques et un petit peu le dessin.
Là, le dessin, tu es un peu dans ton élément. Tu es en train de chercher quoi sur l'ordinateur ?
La Delta Force logo. C'est pour ma chambre, en fait, que tu veux prendre ça.
C'est ça, la Delta Force ?
Oui,
Alliance Military ?
C'est une puissance de l'armée américaine.
Et le symbole, c'est donc un cercle avec au centre un couteau qui transperce, qui découpe un triangle en forme d'éclair.
C'est ça. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ça.
Il me fait penser au couteau de Beauvallon. Il y a un couteau ici.
Oui, on a un permis couteau.
Toi, tu as un couteau ?
Non, je vais bientôt le passer.
Tu vas demander à avoir un couteau ?
C'est ça.
Comment tu vas faire ?
Ben, en fait, on est observé une semaine sur le groupe.
Et le groupe, c'est combien de personnes dans ton
groupe ? Ça dépend. On est 11 des fois et il y en a qui partent le mardi. Du coup, des fois, on est un peu moins.
Okay. Mais enfin, c'est des gars et des filles qui te connaissent bien.
C'est ça. J'ai déjà demandé au groupe, si on me dit que oui, je peux, la semaine prochaine, je vais demander en assemblée pour qu'on m'observe une semaine. Et la semaine prochaine, si ça va bien, bah, je vais pouvoir l'avoir. Mais on peut le perdre. Si on fait beaucoup de bêtises après, on peut le perdre.
Donc ça veut dire que si tu l'as, d'abord, si le groupe dit unanimement, hein, je crois que c'est ça, il ne faut pas qu'il y en ait un ou une qui dise non. Hein.
C'est ça.
S'ils disent oui, ensuite tu vas devant l'Assemblée, et là c'est une autre paire de manches, il y a combien de personnes dans l'Assemblée ?
Oh bah, on est 70 quand on est toute l'Assemblée, quand il y a les groupes du haut, les groupes du bas.
Et il y a les adultes aussi qui participent ou pas ?
Oui, il y a les adultes aussi qui participent.
Donc ça fait sacrément du monde. Il suffit qu'il y ait une personne qui doute de quoi, en fait. Qu'est-ce que tu dois respecter comme condition ?
Je dois être ordonnée, donc bien ranger ma chambre, faire mes ménages et tout. je ne dois pas dégrader, donc pas casser, normal, et je ne dois pas taper, ni verbalement, ni physiquement.
Et ça, c'est des règles qu'il t'a fallu du temps pour arriver à respecter ?
Quelques années. Ça fait 8 ans que je suis ici. Là, j'attaque ma 8e, donc bientôt, ça veut dire que je vais avoir 9 ans ici.
Et tu as quel âge aujourd'hui ?
11 ans.
D'accord. Donc, en fait, là, tu te sens mûr pour faire cette fameuse demande de permis de couteau.
C'est ça.
D'accord. Et tu es confiant ? Ou tu as un peu les chocottes ?
Bah, je l'ai déjà perdu une fois parce que j'avais fait une violence à la fin de la semaine. Je ne l'aurais pas fait, je l'aurais déjà.
D'accord.
Je l'aurais.
Tu l'as eu en main, ce sacré couteau ?
Non, j'ai fait une bêtise, du coup, je ne l'ai pas eu.
Et cette fois ?
Je pense que je ne vais pas l'avoir. Parce que je ne suis pas assez confiant pour moi.
Tu doutes ?
Je doute. Je doute très très fort.
Il ressemble à quoi ce couteau ?
Bah, c'est un Opinel. Donc un couteau qu'on peut ranger, mettre la sécurité. Un couteau pas très très aiguisé, avec une pointe pas du tout pointue. C'est en forme de rond pour éviter qu'on se blesse.
Mais quand même, c'est un couteau. Et on l'a dans la poche.
C'est ça. Mais après moi je vais l'aiguiser, pas parce que je veux manger avec. Parce qu'on a des couteaux qui ne coupent pas très bien quoi.
Peut-être dans la nature t'en servir aussi, non ?
Oui, bah pour bricoler, mais après voilà quoi.
Allons, l'école sans mur, c'était un extrait donc, de ce reportage de Marc. Marc, on entend là ce jeune garçon, 11 ans, 8 ans à l'école. Est-ce que tu en as rencontré beaucoup comme ça ? Est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est vraiment une exception quand même ?
Il fait partie des plus anciens. En fait, les enfants, ils sont 70 aujourd'hui à fréquenter Beauvallon. C'est des enfants intelligents, qui sont en échec scolaire, qui ont des problèmes de comportement et qui ont trouvé leur place nulle part ailleurs. Donc, ils peuvent être là, oui, depuis 6 mois, comme Cassandre qu'on entend au début du reportage, ou 4 ans, ou 9 ans, comme ce garçon.
Ouais. Ça dépend. Est-ce que toi, tu connaissais Beauvallon avant Concertina ?
Oui. Ouais. J'ai un lien familial avec cette école. J'ai un oncle qui a été pendant 40 ans le président des Amis de Beauvallon. Voilà, un oncle qui est d'origine catalane, qui était étudiant à Barcelone sous le franquisme. Un jour, il a distribué des tracts avec des amis, il ne faisait pas spécialement de politique. Et voilà, il a dû fuir le franquisme en catastrophe. Et les réseaux de solidarité qui l'ont pris en charge, entre guillemets, ont abouti à Beauvallon dans les années 50. Et la sœur aînée de mon père qui travaillait comme bibliothécaire, voilà, ils sont tombés amoureux et voilà, c'est devenu mon nom.
Oh, une belle histoire. Une belle histoire. Merci Marc.
Ça fait du bien les belles histoires. Je parlais tout à l'heure, on parlait de Bernard Delpal, on a évoqué les deux ouvrages, Adolphine, Nul n'est étranger, et l'album de Beauvallon, qu'on peut trouver à la librairie de Concertina, qui se trouve à la halle Adolphine, donc là où on est d'ailleurs. Vous pouvez venir assister au plateau radio en direct. On retrouve, on peut retrouver donc ton reportage en entier sur le www.concertina-rencontre-au-pluriel.fr, onglet ici l'ombre, très précisément voilà. C'est ça.
Il faut pas se précipiter sur cet onglet, ça va venir, ça va être mis rapidement dans les
podcasts.
D'ici dimanche, c'est sûr que ça y sera.
Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts de Concertina. Alors vous avez peut-être reconnu la voix de Christine Salem. Effectivement, on va dire au revoir à Marc. Merci Marc d'être passé. Et on va faire une première respiration musicale avec un grand clin d'œil à la Bizarre Nomade.
Devinez qui
qui est partenaire des rencontres avec Christine Salem, qui était là la semaine dernière à Dulphy. C'est avec Loli Lola.
Yeah, 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 mam welingel, suku wong wong, mam dawam, elingel, yeah, mam weloli lo.
Christine Salem avec Loli Lola. Vous écoutez Ici l'ombre, la radio éphémère de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Et de 19h à 20h, eh bien, c'est à l'ombre de Concertina, le mag, le plateau direct. Concertina n'est pas que le petit accordéon bien connu des amateurs et amatrices de Milonga, c'est aussi le nom donné à un modèle redoutable de fil de fer barbelé hérissé de lames de rasoir que l'on retrouve notamment autour des prisons et bien ailleurs. Et c'est bien de barbelé dont nous allons parler avec nos invités après avoir parlé d'école sans mur. Eh bien, on va parler on va revenir à l'enfermement avec Olivier Razac, docteur en philosophie, chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et auteur notamment de Histoire politique du barbelé. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et Sophie Bruno, anthropologue, cinéaste et chercheuse à l'Institut de sociologie de l'Université libre de Belgique. Pas du tout, est-elle en train de faire. Et réalisatrice, entre autres, de Devil's Rope, la corde du diable, pour une conversation croisée autour de ce barbelé. Bonjour Sophie, alors c'est pas du tout ça.
Non, il faut jamais prendre Internet. Une erreur évidemment se reproduit, elle ne fait que se confirmer, puisque tout le monde l'utilise, mais peu importe.
Bon, alors ben, peut-être peux-tu rectifier.
Peux-tu rectifier. Je suis juste anthropologue de formation, je ne suis pas chercheuse
et voilà,
je suis prof et cinéaste.
Alors bon, mais il faut, voilà, c'est sur le, c'est alter ego aussi à qui il faut tirer les oreilles. Regardez l'histoire du, bah, en préambule, d'abord, avant toute chose, tous les deux, vous avez travaillé donc sur le barbelé, chacun à votre endroit et chacun avec votre média. Comment est né ce choix de sujet, d'études ou de films? Pourquoi le barbelé? Parce que ce n'est pas forcément très, très naturel. Sophie?
En même temps, c'est assez banal. Hein. C'est un, comment dire, un outil technique qui fait partie de notre environnement quotidien, qui est là. Donc, il a été naturalisé. Et le questionner à nouveau dans un rapport d'usage, soit philosophique, soit cinématographique, c'était aussi peut-être soulever un rapport au passé d'abord, et ensuite à renouveler une forme de questionnement pour moi dans une mise en récit qui allait révéler énormément de choses, parce qu'il est le prisme finalement pour réfléchir un rapport entre pouvoir et espace dans le rapport à l'autre, ce qui n'est pas rien une fois que c'est dit. Mais après voilà, c'est devenu pour ma part un fil conducteur qui m'a permis de retracer une histoire liée à un processus de colonisation qui s'est approprié, puis ensuite a exploité et a été jusqu'à détruire, en termes de désolation, un paysage anthropologique tout entier. Voilà.
On va effectivement aller explorer ça. Olivier, le point de départ de ce ouais, choix.
C'est toujours un peu un récit qu'on reconstruit après et qui donne l'impression qu'une recherche est toujours quelque chose d'hyper cohérent dans un projet de vie globalisé, etc. Alors que c'est beaucoup de contingences et de hasard aussi, mais dont on fait quelque chose. Non, ce que je pourrais dire, c'est que moi j'ai une formation de philosophie et que j'ai rencontré en fait à la fois des enseignants et des ouvrages, des auteurs comme Michel Foucault par exemple, qui m'ont montré une manière de faire de la philosophie appliquée quoi, à des dispositifs concrets, à des dispositifs en particulier de pouvoir, de gouvernement qui construisent, qui produisent et reproduisent notre réalité sociale. Et cette dimension concrète et actuelle m'a intéressé quoi. Enfin, l'histoire de la philosophie, je pense que j'aurais fait autre chose dans la vie, même si c'est très intéressant. Et donc, voilà, travaillant sur des dispositifs concrets d'exercice du pouvoir, j'avais déjà commencé à travailler, mais j'étais jeune à l'époque. Hein, le barbelé, la première version, c'est j'avais 27 ans. Donc, mais je travaillais plutôt, moi, ce qui m'intéressait, c'est les formes intermédiaires d'exercice du pouvoir sur l'espace en particulier. Et je m'intéressais au développement de la surveillance électronique. Et en fait, on m'a proposé de travailler sur le barbelé. Et en fait, c'était contre-intuitif pour moi, parce que justement, je ne m'intéressais pas à ça. Je ne m'intéressais pas à ces formes-là qui sont en rapport avec le corps, etc. Je m'intéressais aux nouvelles formes, en fait. Et en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens extrêmement importants. Et comme je l'ai dit ce matin, que le barbelé était en fait un jalon dans une histoire qui amenait à la surveillance électronique. Et donc c'est comme ça que je m'y suis particulièrement intéressé.
Effectivement, dans vos œuvres respectives, on découvre que l'histoire du barbelé se confond avec celle des colons des États-Unis, notamment, qui mettent le territoire en coupe sous couvert de protection des biens et gestion des nuisibles. Est-ce qu'on peut parler de prémisse de l'utilisation de la délimitation d'espace comme instrument de pouvoir à grande échelle ?
Le fil de clôture, de manière plus générale, a permis de diviser, contingenter, séparer et ensuite exploiter le territoire. Il s'est associé à un projet, par exemple, aux États-Unis, qui pour moi était un territoire où ça pouvait être intelligible au sens d'un rapport de perception et de visibilité. De reconstituer cette histoire qui remontait finalement au 19e, mais elle s'associe à une histoire souvent en termes de perspective un peu qui la précède. C'est Jefferson, un des premiers présidents américains à la fin du 18e, qui décide de contingenter une grande partie du territoire américain sous forme d'un camp militaire, dirait Foucault, de 36 miles sur 36 miles, avec chaque fois des carrés de 1 mile sur 1 mile. Et au milieu du 19e, les géomètres arpenteurs vont aller tirer les lignes. Et plus tard, les routes et clôtures vont donner l'empreinte physique en fait, de ce schéma en damier. Hein, et en fait, pour moi, construire ce récit, La corde du diable, j'ai beaucoup lu de manière pluridisciplinaire autour de l'architecture optique, autour de l'histoire politique, autour effectivement de l'anthropologie de manière plus globale, puisque tout ce processus de la mise en clôture d'un immense territoire qui semble tellement grand, qu'il a des résonances d'infini. On a l'impression qu'effectivement on a réussi à clôturer l'infini quand on va aux États-Unis et quand on s'intéresse à ces questions-là. Il y a cette économie de surveillance et de contrôle qui, passant par la clôture, donne cette impression effectivement de visibilité à tous les étages de manière verticale, horizontale. Hein, et parce que, évidemment, quand on regarde un pays où la ligne droite est la ligne principale, ben, c'est l'uniformité la plus pure qui permet d'être visible de partout. On le voit bien dans La mort aux trousses, par exemple. Hein. Le type, finalement, peut s'en courir partout, il sera toujours vu. Et du coup, ça va contre une idée reçue de la ligne droite qui serait le rapport à la liberté, à l'aventure, on the road, mais se trouve être, en fait, le trait peut-être le plus caractérisé de la architecture optique en termes d'hypervisibilité, quoi.
Oui, enfin, la même idée, c'est que le barbelé n'est pas la cause d'une forme d'industrialisation, de l'utilisation des terres basée sur la propriété privée, c'est avant. Ceci dit, effectivement, il apparaît quand même pas n'importe où, il apparaît comme une nécessité pour coloniser les grands espaces. Et avec un rapport à l'espace donc, géométrique, non vernaculaire, donc c'est un terme un peu compliqué, vernaculaire, mais bon, qui est assez proprement américain, est lié à ces espaces-là et au fait qu'on les considère comme vierges et à coloniser. Donc, le barbelé, cette ligne, en fait, qu'on peut étendre quasiment à l'infini, contrairement aux petits murets de pierre, etc., va construire cet espace, va être le support d'une colonisation géométrique et industrielle de l'espace, quoi. Mais c'est pas la cause, hein, c'est un support. Et effectivement, on peut penser aussi à ce phénomène à la fois technique et juridique. C'est-à-dire que le Homestead Act, alors c'est fin 19e, hein, c'est un peu après le barbelé, c'est un acte juridique qui consiste à dire qu'on va lotir et distribuer en propriété privée des parcelles moyennes, je dirais, de mémoire, le long de la voie de chemin de fer. Donc la voie de chemin de fer arrive et en fait, on distribue les propriétés le long de la voie de chemin de fer parce que c'est relativement sûr. Et on fait ainsi avancer cette colonisation. Mais par contre, je voudrais quand même juste pas tomber dans la facilité, même si je sais que dans la nature qui nous entoure à Diolfi, ça peut aussi être très tentant. Mais cette colonisation de l'espace est aussi une forme de valorisation des terres pour produire de la nourriture et de toutes sortes d'autres choses. Donc ce qui m'intéresse moi particulièrement par rapport à ça, c'est l'ambivalence. Et le barbelé est évidemment un outil fondamentalement ambivalent, parce qu'en fait, c'est un outil qui permet, comme je disais, l'avancée de la civilisation et aussi la mise en valeur des terres à travers cette colonisation agricole. Et en même temps, c'est un outil qui, immédiatement, est un outil d'extermination politique. Voilà. Mais c'est le même mouvement. C'est le même mouvement. Le même mouvement, c'est le mouvement de mise en valeur et d'extermination. C'est ça qui me paraît embêtant.
Ça dépend un petit peu ce qu'on appelle civilisation et mise en valeur du territoire, parce que je pense qu'avant les colons, l'espace était suffisamment mis en valeur par les premiers habitants, les primo-habitants.
Bien sûr.
Donc il y a toute une ambivalence aussi autour de ces termes.
C'est ça, oui. C'est la civilisation, c'est l'avancée de la civilisation au sens libéral, industriel et démocratique d'ailleurs, occidental, et du point de vue de laquelle c'est la seule civilisation.
Le fil de clôture aux États-Unis signe la fin d'un monde basé sur le nomadisme et l'errance. Elle signe aussi bien la fin des Indiens que la fin des cow-boys ou la migration animale, puisque beaucoup d'animaux vont s'emballer et mourir de froid quand ils quittent le nord pour rejoindre le sud. Donc c'est effectivement un bouleversement en termes de rapport au monde pour certaines conditions d'existence.
Alors, il nous faut relire Lucky Luke, des barbelés sur la prairie, notamment.
Alors, justement, initialement, le barbelé est utilisé pour le bétail, mais aussi contre les peuples autochtones. On revient à cette histoire de protection et de gestion des nuisibles avec plein de guillemets, mais qui est une réalité. Son utilisation évolue contre les humains, plus généralement avec la guerre, puis les prisons. Olivier, tu évoques l'évolution champ, tranchée, camp. Tu disais ça ce matin. Un rapide rappel, peut-être, pour permettre le...
Rapide, alors. D'abord, le barbelé dans les grandes plaines, il est pas utilisé pour les troupeaux, il est utilisé contre les troupeaux, puisqu'en fait, c'est pour protéger les champs, de ce qui d'ailleurs raconte l'album de Lucky Luke. Et les guerres de barbelés, c'est entre les éleveurs qui utilisaient les grands espaces et les colons fermiers, dans un premier temps. Et effectivement, en fait, comme le disait Sophie, le barbelé, en fait, il est contre les êtres vivants, hein, tout simplement. C'est-à-dire, il est contre les êtres vivants indésirables. Donc les troupeaux, à ce moment-là, mais évidemment les Indiens, enfin, ou les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre du champ de la propriété privée et de son exploitation, et les animaux sauvages. Voilà. Donc oui, c'est le barbelé, il est inventé pour coloniser la prairie. Donc pas le champ, c'est plutôt la prairie. Il est inventé pour ça. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, mais c'est pas extrêmement étonnant, immédiatement, il est utilisé pour gérer d'autres formes de populations indésirables. En fait, c'est un outil de gestion violent des populations indésirables. Donc, soit en termes de colonisation agricole, soit en termes de quand on fait la guerre, ou alors pour concentrer les populations qui sont gênantes, quoi. Voilà. Donc, c'est immédiat, hein, c'est dès la fin du 19e siècle. Dans ces deux types d'utilisation-là, il est aussi utilisé là-dedans. Mais effectivement, pour ce qui est de l'utilisation militaire, c'est bon, tout le monde connaît évidemment la place du barbelé dans l'esthétique et le dispositif de la Première Guerre mondiale, de la tranchée, du No Man's Land. Et puis, évidemment, tout le monde a en tête le rôle du barbelé dans l'utilisation massive des camps de concentration dans la modernité, jusqu'à aujourd'hui. Camps de concentration qui sont utilisés par tous les régimes, avec le point commun de gérer des populations indésirables, sans passer par l'action de la loi ou par la question de la guerre, d'ailleurs, puisque ce sont des populations civiles, d'une manière brutale, mais par contre avec des formes évidemment extrêmement différentes et qu'il faut bien distinguer entre des camps de réfugiés qui sont bien une gestion brutale d'une population indésirable ou des camps d'extermination qui sont aussi évidemment d'un autre ordre.
Alors, Sophie, toi, tu utilises le terme d'animalisation de l'humain.
Oui, je crois que par rapport au film, c'est une grille de lecture pour moi dans sa compréhension, mais aussi dans la compréhension peut-être du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire le rapport nature-culture et humain-animal. Et je repense en écoutant à une phrase d'Agamben qui dit « Tout ce qui est inventé pour l'animal se retourne un jour contre l'homme ». Pour le coup, le film Rabelais, c'est complètement ça. Il est pendant une vingtaine d'années à vocation agricole et puis son premier détournement à la fin du 19e qui va augurer tout le 20e pour un camp à Cuba, lors de la guerre d'indépendance. Toujours est-il que, pour moi, il était intéressant à tirer pour construire un récit, pour raconter une histoire à laquelle il participe, mais qui le dépasse, en fait. C'était la première étape dans la virtualisation du contrôle et de la surveillance. Donc, j'ai construit un récit autour de cette économie de la surveillance et du contrôle, avec, effectivement, cette idée qu'en tirant ce fil, je racontais une grande histoire, tout en la rendant très concrète, ce qui n'est jamais évident, et qui aboutissait en fait à travers une série d'étapes où on retrouve des mondes perdus, où on retrouve effectivement ces rapports d'exploitation liés à des formes de séparation, et on va jusqu'au désert de Sonora où il y a une chasse, hein, de nouveau ce rapport d'animalisation, qui est une chasse moderne, hein, comme on dirait du comte Zaroff, qui est une chasse à l'homme en fait, et aux femmes, et aux enfants, et aux vieillards, et aux plus jeunes, mais aux migrants, pour aller plus vite. Mais toujours est-il que dans ce désert de Sonora, il y a un laboratoire quasi un business en termes d'expérimentation des dispositifs et des techniques de surveillance et de contrôle. On y trouve tout, les radars, les caméras infrarouges, les drones, les barrières, les hautes. Là, on arrive effectivement à un renversement complet, en fait, où le fil de clôture devient un adjuvant parmi d'autres, mais il nous a amené là. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre le processus, en fait. C'est de mettre ça en perspective dans un rapport entre pouvoir et espace dans la relation à l'autre, puisque c'est une gestion politique de l'espace dont on parle quand on parle du fil de clôture. Et avec tous les éléments auxquels il s'associe, ça va des barrières plus ou moins hautes, plus ou moins agressives, jusqu'à effectivement aux caméras infrarouges dans la nuit du désert de Sonora. Mais la fin du film raconte une forme de désolation, parce que ce monde dont tu disais démocratie libérale industrielle a donné lieu effectivement à une exploitation des choses jusqu'à son épuisement. On le voit bien aujourd'hui, hein, puisque ça résonne fortement. Il y a une historienne dont on parle peu, que j'ai toujours trouvé formidable, surtout dans mes recherches à l'époque, c'est Elise Marianne Strass, qui a bien parlé des États-Unis, notamment de ce dernier tiers du 19e siècle américain, qui est juste incroyable dans toutes ses inventions techniques, ses brevets, cette industrialisation rapide dans cette chaîne de l'inventeur, du capitaliste, et hop, de la mise sur pied en œuvre. Et donc, effectivement,
on voit dans la litanie des chiffres, notamment la perte, quoi, la perte des choses du vivant, et animées ou inanimées, que ce soit les animaux, les arbres, les essences de manière générale. C'est affolant, parce que d'un côté, il y a un progrès technique d'emballement, où on invente tout, le télégraphe, l'électricité, les machins, les fusils à répétition, et le fil barbelé, hein, avec toutes ces variations, parce qu'il y aura 500 modèles de base et 2000 variations, hein, on trouve des collectionneurs. C'est pour ça qu'on disait, il a eu une autre histoire là-bas, il y a un rapport culturel très fort, il y a une fierté, en fait.
Il y a des interviews qui sont assez surprenantes.
Oui, il y a une séquence avec quelqu'un qui a passé 50 ans de sa vie à constituer une encyclopédie du fait. Et moi, quand j'avais lu Olivier sans le connaître à l'époque, ça avait été un livre important parce que il m'avait permis de cimenter une série de choses que j'étais en train de construire, et de me comprendre qu'il fallait tirer ce fil pour raconter la généalogie relativement buissonnière de cette économie de surveillance et de contrôle. Du coup, ça avait été une lecture importante parmi les quelques-unes. Mais pour reprendre votre question de départ, j'avais lu un article d'Agambem en 2001 qui parlait de... suite au 11 septembre, on devait se faire contrôler l'iris et les empreintes digitales à la frontière états-unienne, et il avait refusé d'y donner cours. Et il avait parlé à ce moment-là de l'animalisation à travers l'évolution des dispositifs de surveillance et de contrôle. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est mon sujet. Il était dit de façon tellement précise que ça m'a permis d'être effectivement très, très clair sur mes intentions. Mais on en vient là parce que c'était l'intimité biologique. On va chercher dans l'iris et l'empreinte, tout d'un coup, l'identité, comme on le fait pour les animaux. Donc effectivement, là, pour le coup, il y a une animalisation qui est évidente parce qu'elle va directement vers le corps.
Alors le corps, ben, le barbelé est justement en prise directe avec le corps. Pendant longtemps, l'utilisation du barbelé était marquée un peu sous le sceau de la honte. On voit aujourd'hui qu'il n'en est plus rien, que ben, le barbelé revient de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus affirmée, et qu'il revient dans un peu de partout. Ça, c'est une réalité, comme si à nouveau c'était devenu complètement acceptable. Et tu en faisais référence justement là aussi ce matin à cet exercice du pouvoir qui est désinhibé totalement.
Alors, faudrait nuancer, je pense, parce que on remarque une modification et peut-être un début de retournement de la proportion qui s'était établie, qui faisait que la mémoire attachée au barbelé, attachée donc à ses usages catastrophiques, et en particulier au corps, était encore vivace, et même entretenue, en quelque sorte aussi, par un effort de mémoire collectif, que cet aspect-là est en train de manifestement de s'effacer, ou de changer de nature, quoi. Voilà. Mais c'est pas facile à interpréter, donc je vais juste quand même essayer de dire deux, trois choses, parce que, faudrait nuancer, manifestement, par rapport à l'époque où l'utilisation du barbelé était forcément cantonnée à des zones, des types de populations, des types de situations où il était acceptable. Mais cette acceptabilité était toujours difficile du fait de cette charge symbolique. Déjà, il faut remarquer que même à l'époque, disons il y a 20 ans, plutôt 30 ans, 20-30 ans, cette charge-là était variable en fonction des pays et du rapport des pays avec l'histoire, en particulier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mon directeur de thèse, Alain Brossard, qui a beaucoup travaillé sur les camps et qui vit beaucoup à Taïwan, disait les Chinois, Auschwitz, le barbelé, etc., bon, c'est pas ça leur problème en termes de violence politique et de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. C'est vraiment le viol de Nankin, c'est les violences japonaises qui sont d'une autre forme. Bon. Donc, cette relativité-là, qu'on a du mal à accepter, mais qui est un fait, faisait aussi que, dans certains pays, pour différentes raisons complexes, là, je ne vais pas schématiser, d'une part, cette dimension de la mémoire, d'autre part, le rapport à la violence politique qu'il y a dans certaines zones font que le barbelé peut être utilisé dans les rues, il peut être utilisé pour protéger des maisons. Mais voilà, il y avait cette variabilité. En tout cas, en Europe, cette charge symbolique était encore manifestement forte. Et effectivement, ce qu'on a connu de manière évidente, c'est-à-dire, c'est tout simplement pour les élites des États qui ont une politique officielle qui consiste à mettre en avant, dans une certaine mesure, hein, l'utilisation de barbelés pour protéger les frontières face à des migrations. Donc, comme tu disais, des femmes, des enfants, des civils, etc. Et donc, ça, c'est ça, je pense, qui a été un choc profond, en dehors de la violence qui est exercée sur une population, bien sûr, mais l'autre choc, c'est-à-dire le sentiment de dire, mais si cette charge symbolique se retourne, en fait, ne permet plus non seulement de cantonner l'usage de non pas simplement du barbelé, mais d'une violence politique extravagante, quoi, enfin, potentiellement extravagante ou du moins massacrante, ça réouvre des possibles politiques qu'on espérait fermer. Voilà. Bon, et c'est bien évident, la séquence dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que ça n'échappe à personne. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est peut-être encore plus grave d'en discuter, ça ne veut pas forcément dire que le barbelé s'est banalisé, puisque ce qui est mis en avant, c'est quelque chose de très ambigu. C'est d'un côté de dire on va utiliser des barbelés, c'est pas forcément nazi, donc on a le droit, on s'émancipe de cet héritage et de cette charge symbolique, et en même temps, on montre le muscle. C'est-à-dire, on dit, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on peut payer ce prix-là, parce que nous, contrairement aux autres, nous sommes ceux qui allons utiliser tous les moyens pour vous protéger. En fait, je crois que le message, il est là. Le message, quand on utilise quelque chose comme le barbelé, c'est de dire, on est prêt à tout pour vous protéger, et ça, c'est qu'un début. Et donc, évidemment, ça fait signe vers ce que le fond de la politique en général, mais qui en général est médiatisé par d'autres formes, c'est-à-dire le droit de vie et de mort. Ce qu'on connaît en général, c'est pas du tout l'absence du droit de vie et de mort. On a vu là, des choses sur la prison, etc. Enfin, la prison, mettre quelqu'un en prison, les violences en quartier disciplinaire, etc., c'est ce pouvoir de l'État. La raison d'État fonctionne, on peut exécuter des gens, on peut utiliser des drones, etc. Bon, bien sûr que l'État démocratique, libéral, il est basé sur ce droit de vie et de mort. Mais en général, pour la population, il est médiatisé quoi, par des choses qui viennent l'euphémiser, l'édulcorer, etc. Et donc, là, le barbelé, c'est la capacité de dire, on n'a même pas besoin de médiatiser, quoi. On y va directement.
Est-ce que le message, c'est de dire, on est prêt à tout pour vous protéger, ou on est plutôt, on est prêt à tout pour vous contrôler ? Et nous, on est prêt à tout pour accepter d'être protégé.
C'est pas la réponse, vous n'avez pas répondu à la question. C'est-à-dire être gouverné par la peur, ouais. Oui, bien sûr.
Alors, si vous voulez aller plus loin, et si on va laisser en suspens Olivier Razac, Histoire politique du barbelé, c'est chez Flammarion, c'est en 2009, et Sophie Bruno, L'accord de Didier, Devil's Rope, c'est chez Alter Ego Productions, qu'on trouve. Alors que précipitez-vous à la Dulphie, puisque à la librairie, vous avez à la fois le livre et à la fois le DVD pour retrouver la totalité. On fait une deuxième respiration musicale. Et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On pourrait rester encore très longtemps, mais le temps presse.
Merci.
Merci.
As he drank all his whiskey and rye, the devil came in, he said, pour me some gin. Walking the long road that winds, so I'm going to find on the day. I'm going to find on the day. Where I'm going, I found him down the long road that winds. Going to find where he lay. Well, my bones are stacked like rocks, and I take to the wind like the sea. Where I'm going, boy, Lord, I sell the devil my soul to bring back my lover to me. So I'm going to find on the day. I'm going to find on the day. Where I'm going, I find him down the long road that winds. Going to find where he lay. Forever I will be, yeah. Oh, 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 oh.
Sarah McCoy, Devil's Prospects.
Merci Sylvie, tu as une belle voix. J'achète.
Merci Frédéric.
On continue cette émission à l'ombre de Concertina avec Christine Perregaux, bonjour, et
bonjour.
Marielle Rispaille.
Bonjour.
Alors Christine, tu es enseignante principalement en français langue étrangère, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et alors, tu es aussi, il faut le dire, la fille de Louis Perregaux, qui est un
petit... On l'avait prévenu.
Et qui lui-même investit dans Concertina et dans la création de ces journées de rencontres autour des enfermements, et qui est un ancien prisonnier de longue peine. Donc la prison et l'enfermement, tu connais un petit peu à travers ta vie personnelle, voilà, que nous avons étalée au grand jour. Donc. Merci Christine. Et quant à toi, Marielle, tu es une ancienne prof de la fac de Saint-Étienne, à la retraite émérite.
Émérite.
Donc tu mérites de travailler encore. C'est ça l'idée. Et en plus, tu as été la professeure de Christine.
C'est ça. Voilà. Et nous nous sommes rencontrés. Voilà. Professeurs, amis, collègues.
Vous avez décidé de continuer un petit bout de chemin ensemble. Voilà. Et alors, pourquoi vous êtes avec nous ce soir? Quand même, il y a une bonne raison. Vous animez des ateliers pendant ces 3 jours de rencontre, des ateliers que vous avez intitulés Parloir libre. C'est dur à dire, ça, Parloir libre. Un instant, un moment, un espace aussi dédié aux témoignages, autant des personnes enfermées que des enfermants, des chercheurs, chercheuses, etc. Enfin, toute catégorie de personnes ayant envie ou besoin de s'exprimer sur ce sujet. Comment vous en êtes venu à créer cet atelier? Comment est-ce que vous avez procédé pour choisir des gens qui pourraient venir témoigner? Et comment vous êtes allé à leur rencontre? Ça fait beaucoup de questions en une seule, mais j'adore ça, moi.
Je fais un petit bout de la première.
Vas-y.
Cette idée d'atelier, elle est née tout d'abord de la réflexion, de se dire on ne peut pas concevoir des rencontres autour de l'enfermement sans laisser la parole aux premières concernées, qui sont des gens qui ont vécu l'enfermement. Voilà. Il est toujours très intéressant de parler de réfléchir sur, mais avant tout de laisser la parole aux personnes qui ont vécu la détention, quelle qu'elle soit. Donc ça a été pensé comme cela. Puis il y avait un deuxième temps à côté où des jeunes chercheurs et des intervenants étaient aussi invités à parler de la question. Et puis en réfléchissant avec le groupe d'organisation, on s'est dit mais ce serait très intéressant justement que tous ces gens dialoguent ensemble. Et de là sont nés ces parloirs libres, donc 3 temps de parloirs libres sur le temps des rencontres Concertina. Il y en avait un premier cet après-midi, un deuxième demain matin et un troisième dimanche matin.
Ça se passe au collège de...
Ça se passe au collège de Dieulfi.
Le collège Chalamel.
C'est ça. Voilà comment c'est né. Et puis ensuite, on a tricoté un petit peu tout ça. Mais du coup, voilà, je ne sais pas à Marielle pour le tricotage.
Avant, je voulais dire 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, dans tout mon parcours et sur d'autres engagements, j'ai toujours eu, moi aussi, le souci de donner d'abord la parole à, au lieu de parler sur. Et il se trouve, c'est pas par hasard, bien sûr, quand j'étais déjà prof de collège et de lycée avant d'être à l'université, que trouvant difficilement dans la littérature classique, j'étais prof de français, des livres intéressant mes élèves, j'étais dans un lycée technique en Lorraine, j'ai souvent donné des textes de prisonniers ou d'ex-prisonniers. Je me souviens avoir fait travailler des textes issus de QHS, de Messrine, ou issus même du Pullover Rouge, etc., pour faire réfléchir mes élèves sur des choses de l'actualité et les ouvrir sur des lieux cachés de notre société et de notre présent. Et j'ai toujours été émue, je dirais, de l'engagement, de la passion dans lequel ils se lançaient dans ces lectures, alors que j'avais tellement de mal à leur faire travailler autre chose. Voilà. Et puis c'est aussi, je dis Christine quand même, puisque maintenant on t'a dévoilé.
J'ai spoilé.
C'est aussi par la parole d'eux que je me suis, par hasard, trouvée proche de Christine. Je connaissais par écrit, son papa, quand lui-même était détenu, parce que nous correspondions ensemble. Je faisais partie de ces gens qui écrivaient, voilà, des gens par des amis communs. Et puis, j'ai encore ces dizaines de lettres que nous avons échangées pendant des années. Et après, il est sorti, après, il m'a envoyé ses livres. Et je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Le jour de ma mise à la retraite, Christine, parmi plein d'autres étudiants, m'offre un livre en me disant « Tiens, je t'offre ça, c'est un bout de ma vie. » Et je le mets de côté. Et le jour où je déballe enfin mes cadeaux, je vois que c'est le livre de Louis Perrego, que je connaissais depuis longtemps. Il était 10h du soir, je prends tout de suite mon téléphone, j'ai « Christine, t'as 2 minutes, oui. Qui c'est Louis Perrego pour toi ?» Elle me dit « C'est mon papa. » Et c'était étonnant comme voilà, ma vie de prof et ma vie d'engagement ailleurs se rejoignaient dans Christine. Donc après, évidemment, enfin, j'avais déjà apprécié et la personnalité et des terrains d'engagement communs. Voilà. Et ça, c'est pour dire que la parole d'eux, elle nous a réunis. En l'occurrence, c'était celle de Louis, dont je suis devenue, c'est peut-être prétentieux de dire une amie, une proche. Voilà. Comment on a trouvé ces gens-là? Parce qu'une fois qu'on a connu des gens comme Louis Perrego, c'est pas facile, en fait, d'en trouver d'autres. Et je veux dire aussi, Christine, pour compléter, que c'est pas nous qui avons choisi Parloir Libre et qui avons choisi ça. C'est le groupe entier, hein, les 15 ou 20 personnes qui ont réfléchi à ces journées.
Le groupe de Concertina.
Le groupe de Concertina, voilà. Et nous sommes, à l'invitation de Christine, chargés de Parloir Libre. Oui, vas-y.
Peut-être préciser qu'on n'est pas que deux à avoir créé ces Parloirs Libres. On est ainsi mis à quatre, quand même, pour pouvoir construire ça. Marielle et moi avons été plus en charge du contact avec, justement, les personnes anciennement détenues, pour toutes ces raisons. Vous avez compris quels étaient nos attachements. Et puis, nous ont rejoint dans cette aventure Jean-Michel Grémillet, qui s'est occupé aussi, de par son attachement et de par ses activités professionnelles, de toute la mise en relation avec les intervenants sociaux, culturels, etc. Et puis de Damien Scalia, qui s'est occupé, lui, de toute la mise en relation avec les jeunes chercheurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, tous les gens qui font de la recherche. Et du coup, voilà, c'est à quatre qu'on a vraiment construit et fait ce tricotage sur les parloirs libres.
Ceci dit, trouver des ex-détenus ou des ex-enfermés, parce qu'on ne voudrait pas se limiter à la prison, vous l'avez compris, dans Concertina, c'est pas facile. Moi-même, j'en connais plusieurs. Je suis allée en prison, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des étudiants emprisonnés, je suis allée les voir, j'ai même fait passer une thèse en prison. Et les gens qui veulent témoigner, qui veulent en parler, sont difficiles à trouver pour plusieurs raisons. D'une part, souvent quand ils sortent, ils ont envie de plus en parler, de tourner la page. Et d'autre part, je connais aussi plusieurs personnes issues d'addictions ou de violences ou autres, qui ont vécu des choses positives dans la prison et pour qui la prison a été une chance de porte de sortie. Et leur témoignage, enfin, ils n'avaient pas envie, en fait, de parler de ce type de choses. Bref, on a eu un peu de mal. C'est beaucoup grâce à Christine et à Jean-Michel que nous avons finalement fait notre casting, dont tu peux peut-être parler un peu, Christine.
Oui, alors on a d'abord contacté des gens de connaissances, de bouche à oreille, de relations. Et puis eux-mêmes nous ont aussi proposé d'autres personnes. Et puis ensuite, quand on a commencé à communiquer sur les rencontres, d'autres personnes se sont manifestées spontanément en disant « je veux venir témoigner, j'ai des choses à dire et je veux partager ». Mais c'est vrai qu'on leur avait aussi proposé, dans les premiers échanges, un accompagnement à la parole, parce que ce n'est pas du tout évident
de se livrer. Comment est-ce que vous arrivez à faire que cette parole puisse s'exprimer, puisse sortir de la personne? Est-ce que ça change pour chaque personne?
C'est extrêmement difficile. Encore aujourd'hui, quelqu'un qui devait intervenir demain, je crois, a dit non, je ne me sens pas capable. Il est venu écouter le premier atelier, il a dit non. Tenir un micro, parler devant un public, voilà, demain il ne sera pas là. Et on le comprend. Hein, donc, et il était volontaire et il en avait envie, il avait même insisté. Donc jusqu'au dernier moment, on est dans des tricotages très, très difficiles sur le plan humain. Et on ne peut pas les forcer non plus. Et pourtant, on a bien entendu aujourd'hui, Christine, tu faisais la réflexion tout à l'heure après notre premier atelier, que c'est cette parole-là qui est attendue par le public. C'est ces gens-là, ces témoignages concrets de vécu, que le public a envie, parce que les réflexions, tout ça, on en a tous lu et entendu.
Et de vécu de personnes de l'intérieur et de l'extérieur aussi.
On voulait aussi, c'était notre programme, toucher et faire venir des parents, des proches. Et on a là non plus, pas pour cette année, je pense qu'à l'an prochain, mais on n'a pas réussi non plus. Ce sont des épreuves de famille ou de proches ou de groupes très difficiles à vivre et à verbaliser.
Et toi, justement, Christine, en tant qu'enfant, quand tu allais au parloir, tu l'envisageais comment, ce parloir, en étant enfant?
Je reviendrai vous en parler parce que c'est quand même 18 ans de ma vie, donc c'est long. Entre 6 et 18 ans, les choses évoluent quand même beaucoup.
Énormément, oui.
J'ai très peu de souvenirs. Voilà. Pour le dire en deux mots, j'ai très peu de souvenirs parce que j'ai fait un peu ce qu'évoquait Marielle, c'est-à-dire qu'après, j'ai effacé, j'ai oublié, enfoui. Je me suis auto-protégée comme ça. Alors, c'est bien tapis quelque part et ça ressort parfois, on ne sait trop comment. Mais voilà, j'ai des...
C'est ce qui montre aussi que c'est difficile de faire sortir cette parole avec
les
témoins que vous avez.
Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui j'ai 44 ans et aujourd'hui je m'investis dans Concertina, mais j'ai 44 ans, je ne l'aurais jamais fait, je pense, les années précédentes. Il faut vraiment du temps pour que la parole puisse être posée de façon à peu près sereine et plus uniquement dans l'affect et dans le corps, dans les tripes. Et on l'a vu aujourd'hui avec la première session de Concertina. Du premier témoignage a été extrêmement touchant. Et on a vraiment senti au niveau de la salle, au niveau des autres intervenants, vraiment quelque chose de vraiment à fleur de peau. Enfin voilà, vraiment, c'était très très fort, très très fort.
Et je dois ajouter que, sans le vouloir, on a peut-être poussé à ça, parce qu'on avait donné le corps comme thème central pour un peu rassembler tous les témoignages. Et là, évidemment, on l'a pris, nous, en plein corps.
Ça, c'est pas évident, oui, parce que non. C'est le corps enfermé ou le corps qui attend dehors, c'est vachement difficile. Vous n'aviez pas choisi le plus...
Non, ça nous paraissait au cœur.
Le plus vrai, oui, oui, tout à fait.
Merci beaucoup à toutes les deux, en tous les cas. Et puis, on pourrait peut-être donner l'heure demain, à quel moment est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Est-ce qu'il y a de la place?
On peut encore s'inscrire, il y a de la place. Le parloir libre de demain et celui de dimanche sont à la même heure. Donc, commence à 10h et termineront à midi.
À 10h, au lycée Chalamel, à Dulphy.
Au collège.
Collège, pardon. Oh là là.
À chaque fois,
j'ai sorti une mission, excuse-moi. qui a été prof ici.
Et il y a deux sessions et à chaque fois.
Il y a deux sessions à chaque fois, voilà.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va être obligé de se quitter.
On était très bien. Vous retrouvez À l'ombre de Concertina en direct et en public demain à 19h, toujours à la halle de Dulphy, avec Roxana et François Saint-Pierre pour un plateau spécial autour de la controverse, les prisons, abolition ou réforme. Vaste sujet.
Vaste sujet, n'est-ce pas? Il y aura aussi avec nous Damien Scalia et encore une autre personne. Enfin, il y a plein d'invités. Voilà. Et eh bien, vont suivre là tout de suite, dans quelques minutes, l'écho des conférences qui vont donc justement vous faire l'écho de ce qui s'est passé aujourd'hui.
Avec Olivier Razac.
Voilà, avec Olivier Razac. Et puis, il va y avoir aussi, tout à fait à la fin de notre programme pour la journée, les contes pour petites et grandes oreilles. Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir. Merci.